Nous sommes le lundi 9 octobre, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Au programme de ce soir, on va parler de polar, de western et c'est déjà pas mal. Attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Seb au micro, on est ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Ce soir, je ne suis pas tout seul. J'aime bien parce que maintenant j'ai plein de monde. Après une longue période où j'ai été ostratisé par mes petits camarades, ce soir je suis en compagnie de Luc. Salut Luc.
Salut Seb.
Je suis en compagnie de Fabien.
Salut Seb.
Et de Richard.
Salut Seb. Salut et Fabien. Ben, salut Luc.
Et ben salut.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde. Salut chers auditeurs. Eh ben, comme on disait, ce soir, on va parler polar, western, un petit peu tout ça, enquête, parce que moi j'ai un truc, c'est pas tout à fait du polar. Qui veut commencer?
Bon, allez, on y va.
Allez, Luc.
Allez, on y va.
On est parti.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous, chers amis autour dans le studio. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ouais. Je vais vous faire découvrir une BD hors norme qui devrait contenter les amateurs d'expériences atypiques. Ce n'est pas dans l'esthétique franco-belge, genre la ligne claire, ce n'est pas du manga, désolé, c'est encore moins du comics. En fait, il y a un problème, parce que c'est indéfinissable.
Je te sens presque envoûté par cette BD.
Bah oui, c'est vrai, après un tel teasing, tu te demandes de quelle BD je veux parler. Clairement. Alors on y va. Un titre, un certain Daneri, un scénariste, Carlos Trio, un dessinateur, Alberto Breccia. Et là, je sens les aficionados, les vrais frétillés, parce que les deux compères, on peut les ranger logiquement dans les classiques du 9e art. Mais surtout, ils osent tout et franchissent toutes les frontières avec une agilité époustouflante.
Ok, si tu nous disais de quoi ça parle?
Ben, on va poser le décor. Déjà, un certain Daneri, c'est un recueil de nouvelles qui toutes se déroulent dans le quartier de Mataderos à Buenos Aires. Les histoires font entre 4 et 8 planches. Daneri, c'est un homme, un ancien policier, ou un enquêteur privé, ou un garde du corps, on ne sait pas. Il enquête, enfin, enquêter est peut-être un bien grand mot. Plutôt, il accepte des émissions qui lui sont confiées par des personnes et il les résout à sa manière selon ses propres règles. Ça semble arbitraire et violent. Pour donner un exemple, sa première mission, il doit empêcher la mort d'un homme dont le commanditaire de la mission lui dit qu'il va être assassiné. L'homme est quand même assassiné, mais il faut voir de quelle manière. Dans une autre, il doit protéger une femme contre un marlou violent avec qui l'inconsciente veut se marier. Cette fois, Daneri règle le problème radicalement. En fait, je crois que Daneri n'est peut-être que l'archange du destin. Et tout l'album est comme ça. Et ce n'est pas la peine d'en dire plus quant au thème des différentes histoires. À vous de les découvrir.
Arrête un peu le suspense, dis-nous en plus quand même.
T'as raison, parce que s'il y a les histoires et le personnage, le plus important c'est l'objet, l'album, dans sa totalité. En couverture, un portrait de Daneri façon plan américain. C'est un homme, le visage buriné, à la bouche une cigarette. Il porte un pardessus et une cravate sur une chemise blanche. Mais ce visage sillonné de rides profondes, ce regard légèrement vers le bas, totalement désabusé, désillusionné, c'est un choc. Et déjà avec cette couverture, on est dans la BD. Le dessin de Bretia, c'est une étrange mixture de travail à l'encre, peut-être avec du collage, sans doute aussi avec de l'eau. Et ce n'est que la couverture, car quand on entre dans la BD, cette couverture qui annonçait la couleur, alors qu'en fait on est dans le plus pur noir et blanc, cette couverture, dis-je, tient dans toutes ses promesses. Pour commencer, chaque histoire est introduite par une image carrée, reprise d'un des dessins, avec en dessous le titre. Mais après, honnêtement, on ne comprend pas ce qu'on voit si on se contente juste de jeter un coup d'œil. Tous les éléments des images semblent sortir d'un magma, comme si les contrastes avaient été poussés au maximum. Les maisons, le ciel, les arbres, les poteaux télégraphiques sont réduits à l'essentiel pour les identifier et deviennent presque des silhouettes. Les personnages sont torturés, complexes, seulement par le seul effet du dessin. Dans le monde de Daneri, pas d'espoir. Et toujours ce mélange de textures, d'une noirceur et d'une mélancolie, d'une tristesse infinie. De l'encre, du collage, des bavures jusqu'à l'extrême, et la silhouette des personnages, même parfois transparente. Mais il y a les histoires de Carlos Trio. Chacune tiendrait dans un polar façon Hardboiled et nécessiterait facilement plus de 150 pages à la manière d'un Dashiell Hammett ou d'un Raymond Chandler. Pourtant là, quelques pages, quelques phylactères, et tout est dit, et c'est magistral.
Mais du coup, cet album-là, c'est une nouveauté ?
Non, en réalité, il a été publié dans les années 70 en Argentine, mais ce sont les éditions Ilatina qui en publient la traduction aujourd'hui. Et en la matière, elles ont fait œuvre de salubrité publique. Bretia et Trio nous racontent une certaine Argentine, un certain Buenos Aires, loin du tango et des cartes postales pour touristes. Ils nous racontent le quartier de Mataderos, la violence de l'époque, l'impunité d'un pays qui vit sous le régime de la dictature, et à sa manière de régler les problèmes, Daneri en est une sorte de représentation. Le quartier de Mataderos qui nous est montré est un territoire de désolation, de grande misère, de maisons délabrées et d'humains dans le même état. Les éditions Ilatina ont bien fait les choses. L'album s'ouvre sur un prologue qui rappelle qui sont Bretia et Trio, mais aussi le contexte de l'époque, et il se clôt sur un carnet de croquis.
Mais qui sont Bretia et Trio ?
Bonne question. Alberto Bretia est mort en 93 à l'âge de 74 ans. Il a travaillé sur beaucoup de projets, et pas qu'en noir et blanc. Et il a été influencé par Lovecraft et Edgar Allan Poe. Et puis, pour ceux qui en veulent plus, il faut lire Le pavé qui s'appelle Peramus, chez Futuropolis. Quant à Carlos Trio, lui, il est mort en 2011, à l'âge de 68 ans. C'est le scénariste argentin et mondial par excellence. Parmi ses œuvres, on peut citer El Loco Chavez, La Grande Arnaque ou Buscavida.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la maison d'édition ?
Ilatina, moi, je viens de les découvrir grâce à cet album. Ils se consacrent juste à la publication du fonds bande dessinée latino-américain autour de trois collections. Une qui s'appelle Via Libre, l'autre Grandes Autores et la troisième Novella Grafica. Le 20 octobre, elles sortent un roman graphique, Terra Antarctica, de Augustin Graham Nakamura, qu'elles ont pu éditer grâce à un fonds participatif. Cette maison d'édition mérite vraiment toute l'attention qu'on lui doit, tant leur catalogue est de la plus haute exigence. L'album s'intitule « Un certain Daneri », il est de Carlos Trio et Alberto Bretia, et il est publié par les éditions Ilatina, et si vous ne le lisiez pas, vous aurez fait une grave faute.
Merci Luc. Alors j'avoue que, et c'est, attention, je ne te dénigre pas, mais tu l'as décrit vraiment très bien. Mais le voir, c'est encore une autre expérience. Il y a vraiment un truc assez fou.
Les amis en face, vous l'avez feuilleté.
J'ai été surpris vraiment en ouvrant. Ça fait des traits très particuliers. On est très sombre.
Ah oui.
C'est assez fou quand même.
Très sombre et puis il y a un côté clair-obscur. Tu parlais de silhouette transparente.
Oui.
Ouais, clairement.
Oui. C'est impressionnant. C'est vraiment c'est sidérant. Enfin, quand on se plonge dedans, c'est sidérant. Pour moi, c'est sidérant.
Eh ben, restons sidérés Et soyez sidérés, chers auditeurs, en allant lire un certain Daenerys.
J'ai juste une petite question, Luc, par rapport à un certain Daenerys. Tu as parlé de première mission, deuxième mission, et en fait, chaque mission est un chapitre, j'ai l'impression.
C'est un chapitre à soi. C'est à chaque fois une histoire, ça tient en 4-8 pages maximum.
Et ces histoires, elles se suivent ou vraiment il y a un.
Non, parce qu'à l'époque, elles ont été publiées à des périodes différentes, à des moments différents, et les éditions. Mais le personnage, comme le personnage était identique, les éditions Ilatina ont décidé de tout regrouper en un seul volume et le volume est vraiment parfaitement cohérent, quoi. Ça se tient vraiment, quoi.
Et pour donner une idée aux auditeurs, chaque chapitre à peu près c'est entre 4 et 5 planches de ce que j'ai vu.
Ouais, 4, la plus grande fait 8 planches.
D'accord.
Ouais.
Ah ouais.
En même temps, c'est exigeant à lire. C'est,
Je pense que
c'est un taf.
Mais on se fait piéger, quoi. On se fait piéger, c'est-à-dire que quand on commence, on est en fait, on n'arrive pas à quitter ce personnage qui est complètement, il est impressionnant, quoi. Enfin, il vit là quand on voit la couverture. Enfin, on voit le personnage, on se dit, enfin, ce mec, il a une vie derrière lui, quoi, une vie entière derrière lui. Enfin, voilà, c'est mon enthousiasme du moment.
Eh ben, tu l'as bien partagé ton enthousiasme en tout cas. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis juste après la pause musicale, vous n'allez pas nous retrouver tout de suite. Je vous ferai écouter une interview qui a été réalisée à l'Angers Geek Fest de cette année, alors qui remonte à avril, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça, c'est le 1er avril.
C'est ça. Et dans laquelle on discutait avec deux personnes, Rémi Hoffmann et Guillaume Albin, d'un projet un peu particulier à base de Schtroumpf et de Blade Runner. Et ça, ce sera juste après la pause musicale. Et pendant la pause musicale, je vous mets les Soap Girls avec le morceau Psycho. Faded rainbows, eating your words. The Soap Girl sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb et je vous laisse en compagnie d'une petite interview réalisée lors de l'Angers Geek Fest qui était en partenariat avec l'ENO et Destination Angers. On a fait plein d'interviews et puis on en avait une qu'on a... pour être hyper transparent, on pensait avec Imaginaire qu'ils allaient la diffuser. Eux pensaient que je l'avais diffusée et du coup on l'avait laissée de côté. Mais elle est toujours d'actualité. Donc je vous laisse avec Guillaume Albin et Rémi Hoffmann et vous allez voir, on est toujours dans l'ambiance de l'Angers Geek Fest et c'est plutôt festif parce qu'on se lâche bien.
Bon, alors nos deux invités.
Bonjour.
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 C'est qui ?
Aha.
Oh, je sais pas, on passait par là, on a eu la lumière, on est rentré.
C'était sympa. Ouais.
T'as entendu une Naël Band, tu t'es dit tiens.
Ouais, tiens, je suis chez moi.
Un petit groupe, voilà, sympa. On va pousser la chansonnette là-dessus.
Oui, non, donc.
Alors, on va se présenter. Vas-y, Guillaume.
Oui, bah, moi je suis donc Guillaume Albin, dessinateur de bande dessinée et scénariste aussi parfois, ça dépend des projets.
Tiens, parle un petit peu plus près de ton micro.
Oui, voilà.
Donc, il faut qu'il soit bien perpendiculaire à ton nez.
Ah, bien perpendiculaire, voilà. C'est une question d'ordre.
Tu notes les différences ?
Ah oui, on m'entend
beaucoup. On entend bien la perpendicularité, là.
Ouais, ah oui, c'est très important.
Et non pas la diagonale.
On en parlera tout à l'heure.
Je vais prendre le jeu de mots tout à l'heure.
Oui, voilà. Donc, je suis dessinateur de bande dessinée et scénariste. Enfin, ça dépend des projets, hein, évidemment, parce que des fois, on fonctionne en tandem. Voilà. Je travaille sur la licence du Donjon de Nalbuk, sur les spin-offs officiels et sur le jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros, La Geste de Gurdil et Aventure à Schnafon. Je travaille aussi sur l'univers du trail, donc la course en montagne, avec les éditions Ultra BD. On sort une collection de BD sur les grandes courses mythiques. Et notre nouveau projet avec Rémi, que je vais lui laisser présenter, lui laisser du temps d'antenne. Eh bien, ça s'appelle Smurf Runner 2066. Et je vais passer le micro à Rémi.
Bonjour, bonjour. Je suis Rémi Hoffmann. Donc moi je travaille dans l'audiovisuel la plupart du temps. En fait, je suis réalisateur et scénariste aussi. Et j'avais travaillé il y a longtemps un petit peu dans la bande dessinée. On avait voulu commencer à publier des choses avec Soleil et tout ça, mais c'était il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans. Et je me suis relancé dedans avec un beau projet là qui me tenait à cœur et pour lequel donc j'ai commencé une collaboration avec Guillaume Albin en tant que lui en tant que dessinateur, donc moi en tant que scénariste. Donc c'est Smurf Runner 2066 et c'est donc une bande dessinée parodique dystopique et de futur d'anticipation. Comme on dit, c'est une sorte de Blade Runner avec des sortes de Schtroumpfs, mais c'est pas eux.
En tout cas, c'est dans le thème de l'Angers Geek Fest 2023.
Ah oui, complètement. Il y a, on sent une concentration d'influences pour donner quelque chose de complètement différent que ces influences-là. Comment il est né ce projet-là ?
Alors en fait, il y a très très longtemps, j'avais un peu mariné une idée comme ça. Et c'était tombé un petit peu... j'ai fait plein d'autres choses à côté, donc je l'avais laissé un petit peu de côté. Et en fait, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est l'année dernière, j'ai eu le Covid au moment des 23 heures de la BD. Je ne sais pas si vous connaissez le concours. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je suis coincé chez moi 6 jours, que faire ? Et en fait, il y a eu un thème un petit peu comme ça, c'était avec la couleur bleue. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas relancer ce projet-là ? Et puis j'ai redémarré, tac, 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 et j'ai vraiment redéveloppé tout le projet avec cette ambiance futuriste, avec un peu des complots, un peu de science-fiction, un peu de... Il y a un petit peu de magie, mais il y a beaucoup de choses, surtout qu'on pourrait voir dans des films d'anticipation. Pas forcément Blade Runner, on a dit Blade Runner, il y a une référence dans le titre Blade Runner,
un petit peu, ouais.
Un peu pour la blague, on va dire, mais c'est aussi le côté détective privé, polar, futuriste. Mais c'est aussi plein d'autres influences, comme ça pourrait être Cyberpunk, Shadowrun ou plein de choses comme ça.
Shadowrun qui mélangeait déjà la magie dans du cyberpunk.
Exactement, oui. Voilà.
Et ce qui est très intéressant et ce qui m'a séduit, parce que évidemment, il m'a proposé le projet avec un storyboard. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était justement le côté magique, fantasy, un peu cucu, les petits oiseaux des Schtroumpfs, qui est en fait une survivance ancienne dans l'histoire des Schmurfs actuels, voilà, qui ont évolué dans une société plus sombre, plus post-moderne. Et en fait, le décalage que ça cause avec justement l'ambiance noire, détective, l'ambiance technologie corpo, etc., c'était très intéressant parce qu'on avait la survivance de l'enfance dans un monde adulte. Et ça apporte une évolution sur le concept concept de, des Schtroumpfs, enfin en l'occurrence des Schmurfs en ce qui nous concerne, une évolution qui a du mal à se faire sur les licences officielles. Astérix est bloqué en moins 52 avant Jésus-Christ depuis tellement longtemps qu'on se demande comment c'est possible. À chaque fois qu'il y a une reprise, ça stagne, ils n'osent pas revenir et faire évoluer. Là, ça apportait cette notion d'évolution et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. En plus, la référence à Blade Runner et à Double Détente, parce que la jeunesse des Schtroumpfs, leur manière d'exister, la manière dont la Schmurfette a été créée, on est dans, la dans le répliquant, on est dans le...
Voilà. Ah, il y a ça.
J'aurais pas creusé aussi loin,
si
moi.
Si on regarde un petit peu différemment l'origine des Schtroumpfs, plein de choses comme ça, on voit justement ce côté un petit peu manipulation et tout. Voilà. On joue un petit peu là-dessus. Voilà. C'est le côté répliquant, complètement clonage.
C'est un peu ça, quoi.
Le transhumanisme vu par les Schtroumpfs.
Exactement. Voilà. On en jouait. Comme disait Guillaume, c'est ça, le fait de s'approcher, de s'inspirer des Schtroumpfs sans être les Schtroumpfs, ça nous permet énormément de liberté dessus, de création.
Totalement. En fait, on n'est pas contraint à un héritage monolithique. Ça offre une souplesse de traitement. Et en même temps, la notion d'hommage est hyper importante dedans. On n'a pas voulu s'éloigner trop non plus du graphisme d'origine. On n'a pas voulu s'aliéner trop le schéma de couleurs. En fait, on est vraiment dans l'hommage important à quelque chose qui fait partie de notre enfance et qui fait partie maintenant de l'enfance de nos enfants.
Et puis de la culture commune, quoi. Les gens qui n'ont pas lu les Schtroumpfs connaissent les Schtroumpfs, au moins les grandes lignes. Et nous, vraiment, c'était l'idée de se dire, on peut très bien découvrir notre BD sans connaître absolument, mais si on l'a connu, au contraire, si on a envie de redécouvrir les Schtroumpfs, on va dire les vrais, c'est un plus, parce que ça, le côté immersif est encore plus rigolo, quoi.
Mais du coup, j'ai une question j'ai déjà les réponses, mais j'aime bien les faire reformuler par les gens. Comment on envisage de faire un hommage parodique aux Schtroumpfs avec ce côté corporatiste derrière, sans risquer de se prendre un gros taquet sur les doigts?
Alors, tu veux répondre ou je réponds?
On peut répondre tous les deux à tour de rôle. Oui. Alors, clairement, pour avoir travaillé sur la licence Nahal Buck, je sais que c'est pas forcément toujours facile, qu'un univers, ça se pique pas, ça ne se... Voilà. Mais il y a en France des lois sur la parodie qui ont un cadre et que si on les respecte, on peut. D'ailleurs, on pourra citer pour les Schmurfs plusieurs parodies qui ont déjà été faites, notamment dans les Cassos avec les Proumpfs.
Voilà. Effectivement.
Et du coup, on est allé voir les gens qui ont déjà fait des parodies, on leur a demandé, on est allé voir un avocat. Enfin, Rémi l'a fait. Il est la cheville ouvrière du truc.
Voilà. On a regardé plein de choses. Ouais.
Mais j'avoue qu'en fait, moi, ça m'a sidéré parce que c'était les principales causes de terreur par rapport au projet qu'on présentait à des éditeurs. C'était en fait la crainte de se prendre des procès. Mais vraiment, on sentait le. Comme ça fait.
Ça dépendait. Il y en a qui bloquaient vraiment. Ouais. Et il y en a qui étaient. Pourquoi pas. Mais c'était pas forcément leur ligne.
Voilà.
Ça dépend. Là, on est en train de voir. C'est en étude tout ça.
Oui.
Mais c'est vrai que nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'y aller franchement. En fait, on a été les voir. Le Lombard. Actuellement, c'est le Lombard qui publie. Il leur a dit voilà, on a ce projet là, on aimerait le faire et tout ça. Et sans nous dire oui, parce qu'on s'éloignait trop des Schtroumpfs, ils nous ont dit voilà, c'est un peu trop écarté le côté futuriste, polar et tout ça. Ils nous ont dit mais le projet vraiment est intéressant, audacieux, et ils nous ont même encouragé sur le truc. Donc on n'a pas eu du tout une réponse négative dessus. Au contraire, ça les a vraiment amusés, ça les a plu, mais voilà, ça s'est pas fait finalement. Et on a regardé justement ce que disait Guillaume, donc les règles à respecter dessus pour pouvoir faire de la parodie, pour pas que ce soit du plagiat ou contrefaçon ou autre chose. La première des choses, c'est qu'il faut que ce soit humoristique. Et effectivement, nous, même si on a un côté aventure, science-fiction, tout ça, il y a beaucoup d'humour dedans, et ne serait-ce que ce décalage dessus. En plus, l'humour, ça peut être plein de choses. Ça peut être un peu de l'ironie, de la parodie, ça peut être plein de choses. Après, il fallait que... Attends, le deuxième que j'oublie pas, il y a les quatre règles essentielles.
Il fallait que ce soit dans le respect.
Il fallait que ça ne nuise pas à l'œuvre originale. Et au contraire, justement, nous, on est vraiment dans l'hommage. On incite même les gens à redécouvrir les Schtroumpfs. Et on est vraiment, vraiment dans une logique de bienveillance par rapport à l'œuvre originale.
Mais il ne faut pas qu'il y ait un côté trash, en fait.
Et bizarrement, ça a déjà existé, des trucs trash. Typiquement, ouais. Les Schtroumpfs font des trucs trash. et c'est passé. Oui. Il y a aussi, ne serait-ce que même South Park, donc à l'échelle internationale, il y a un épisode où on voit une parodie des Schtroumpfs dedans qui se font passer un coup de tondeuse à gazon dessus, il me semble.
Je crois bien. Oui.
Donc voilà, et il y a eu pas mal de choses qui existent déjà. Donc c'est qu'ils sont plus ouverts que par exemple Moulinsart, les éditions de Moulinsart, qui eux sont extrêmement fermés.
C'est touchy.
C'est très touchy, ouais. Mais il existe pas mal de choses où ils sont, voilà, ils sont assez ouverts tant qu'ils voient que c'est intéressant. C'est sympa, quoi. Que ça reste rigolo.
Ça reste toujours une interprétation, en fait. Voilà. C'est ça la problématique.
Exactement. Et il ne faut pas qu'il y ait confusion. Ça, c'est important quand même. Donc, ça, c'est la troisième règle pour le. Donc là, c'est pour ça qu'on a changé les noms, on a changé les bonnets, tout ça, pour que les gens voient que ce n'est pas ça. On n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans le même style de récit. Je dirais qu'on n'est même pas dans le même public, puisqu'on est un petit peu plus ado, jeune ado, adulte. Des tout petits, ce ne serait pas forcément leur truc. Oui. Et voilà, on est vraiment dans un autre public. Et surtout, on joue vraiment la carte franc-jeu. Nous, on annonce vraiment ceci n'est pas les Schtroumpfs. Voilà, c'est un truc. On est vraiment honnête, très très honnête, c'est important pour nous là-dessus. Et on a d'ailleurs recontacté aussi récemment tout ce qui était les ayants droit. Donc okay. On est en cours aussi de discussion dessus. Voilà. Donc,
c'est bien, c'est que le projet est très bien cadré. Donc,
voilà. On fait vraiment attention de faire les choses en bonne et due forme, c'est très important.
C'est très important, il n'y a pas de prise en traître, c'est vraiment carré.
Ouais, on se lance pas dans le grand 8 sans avoir mis la ceinture.
C'est ça.
On retrouve pas de personnages précis parmi les Schtroumpfs.
Alors, la plupart non, parce qu'on va dire ça se passe. Donc c'est 1000 ans après. C'est les Schtroumpfs, mais c'est 1000 ans après.
Voilà.
Mais après, on va parler, on va évoquer à un moment donné certains anciens personnages. Donc, on va évoquer très brièvement, mais voilà, c'est pas les personnages principaux. Là, les personnages principaux, pour vous dire, c'est donc le Schmurf détective, qui est vraiment le détective badass de Polar, on pourrait dire. Il y a la Schmurfette étudiante, qui est étudiante en archéologie. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. On trouve, puisque le système politique, économique a changé, il y a des millions de Schmurfs maintenant, même il y a beaucoup de Schmurfettes dedans. Et il y a donc, maintenant, il y a un président Schmurf, il y a des professeurs Schmurf, des docteurs, là, il y a la police Schmurf. Et voilà, il y a plein de choses comme ça dedans en plus, quoi. Et d'ailleurs, on joue aussi en plus dans les différences. Ils ont aussi des morphologies différentes. Il y a des gros, des petits, des grands, des mecs, des plus vieux, des plus jeunes, des voilà. Pilosités différentes, plein de choses.
C'est ils se sont un peu plus humanisés, on va dire, au fil des répliques.
Voilà.
Et justement là-dessus, est-ce que c'est difficile en fait de reprendre un chara-design existant et de se dire comment on le modifie pour justement rester dans cette ligne-là, sans le trahir, mais sans être trop proche, pour justement qu'on différencie bien.
Alors là, c'est là que on rentre dans le un peu dans la meule de la du moulin. Tu vois, c'est il y a du boulot. Le départ, il faut rentrer un peu dans le comment dire, dans les personnages, il faut les intérioriser, il faut les prendre au bout du pinceau, il faut inventer une morphologie.
Okay.
Et en fait, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que ça colle au narratif. C'est-à-dire que si votre visuel est trop décalé par rapport au ton de votre narration, ça va pas. Donc au départ, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre ce qui permet d'évoquer le trait de départ de Peyo et ce dont on a réellement besoin pour servir l'histoire. Et l'équilibre, on finit par le trouver. Je vais pas dire que c'est de la haute voltige, parce que ce qui est génial avec les Schtroumpfs de départ, c'est que en fait c'est un peu un monsieur patate, quoi. C'est vous avez votre personnage, vous collez des petits éléments, une barbe, un truc, un machin, et c'est bon.
C'est un nouveau perso, ouais.
Voilà. Mais là, on s'est dit, c'est pas suffisant parce que va y avoir trop de personnages, trop de caractères différents, et en plus une ambiance nouvelle où vous avez des personnages qui flirtent avec le mal. Et donc du coup, il faut reprendre des éléments graphiques qui sont liés à ça. On a, par exemple, le docteur.
Le professeur.
Oui, le professeur. Voilà, le professeur. Voilà, comme on a un côté un peu cyberpunk aussi. Bon, ben, il faut rajouter des implants, il faut rajouter des choses comme ça. Bon, il a les stigmates d'une expérience passée qui a dû échouer horriblement. Donc, il a moitié le visage brûlé. Bon,
c'est classe. Ouais.
Voilà. Donc on a quand même trouvé. Pareil pour la morphologie, on garde l'essentiel, notamment le bonnet, qui est
iconique.
Voilà. La petite queue.
Mais à l'envers.
Qui est très importante chez nos amis les Schmurfs. Voilà, c'est toujours là. Et par contre, après pour les jambes, pour les bras. je me suis permis de les humaniser un petit peu plus pour leur pouvoir leur donner des postures un peu plus dynamiques, un peu plus différentes et pouvoir les inclure dans des scènes d'action, des choses comme ça où il faut qu'ils sautent en avant, qu'ils fassent des figures. Voilà, et ça c'est pas possible avec les avec le graphisme non, d'origine.
C'est un problème d'articulation qui va se poser à un moment.
Ouais. On est plus dans un truc, on va dire un actionneur. C'est-à-dire que, et ça va se ressentir aussi dans le découpage. C'est-à-dire que le découpage, même de maintenant, ce que fait le graphiste actuel des Schtroumpfs officiels, c'est Miguel Diaz Vizoso, qui conserve complètement le style de Peyo, il le fait à la perfection, et c'est vraiment un découpage classique encore. Nous, on est plus proche d'un un peu plus comics, on va dire.
Un peu plus comics.
Voilà, ouais.
un peu plus éclaté.
Exactement.
Voilà, on n'hésite pas non plus à éclater les cases.
C'est pas un gaufrier classique.
Voilà. Exactement. On n'hésite pas à éclater les cases, on n'hésite pas à faire des plongées contre plongées avec plusieurs plans différents. D'ailleurs, le premier visuel qu'on a sur le flyer et sur le roll-up sur le salon, on a colorisé ça de manière à avoir plusieurs plans différents pour pouvoir faire des animations. Après, Rémi a fait une petite animation qu'il a mis sur les vidéos de présentation. Voilà, on a des flous, des trucs. Enfin, on se permet un langage un peu plus cinématographique.
Ça se ressent en tout cas dans dans cette presse, avec des couleurs très flashy, justement, les couleurs néons très proches
de
cyberpunk ou Blade Runner, justement. Et puis ce côté très claustro, en fait, avec les personnages vraiment isolés et ses mains tendues vers eux. Côté film de zombies, un peu aussi, quand même.
Un peu. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais il y a un peu de ça.
Par contre, on peut dire que c'est complètement urbain, là, alors que les Schtroumpfs, c'était champêtre, bucolique. Ils étaient toujours en train de courir dans des prairies.
Exactement, ouais, là, c'est ce côté urbain étouffant des grandes villes. C'est un peu une thématique qui revenait justement dans les films d'anticipation. Souvent, ce côté futur un peu sombre. Donc, on en joue énormément. Et on parle un peu du passé, on parle de plein de choses. Je ne peux pas en dire plus encore une fois, mais oui, c'est une thématique qui est importante.
On saura comment on est
en trame de fond. En trame de fond.
Moi, je ne peux pas m'empêcher, alors c'est mon côté un peu rôliste aussi, et puis on en parle depuis tout à l'heure. Il n'y a pas une déclinaison jeu de rôle qui serait en préparation pour aller avec?
Si, ça marche.
Mais
on a plein d'envie, évidemment.
Proposer aux gens actuellement de jouer les Schtroumpfs, ça leur plaît pas. Mais dans un univers comme ça, ça peut déjà être funky.
Ça peut être très cool, ouais. On réfléchit à plein de choses. Alors, du jeu, des cartes, des choses comme ça, on va voir, effectivement, on y pense. Il y a d'autres choses auxquelles on pense, c'est que. Alors, moi, je fais un petit peu de 3D, j'ai aussi des amis qui font de la 3D. Donc, on va voir, alors, ça pourra servir. Pourquoi pas faire des figurines un jour ou des petites choses, ça pourra servir, des visuels. Il y a un petit truc rigolo qu'on voudrait faire aussi, c'est faire, comme on est dans le côté futuriste, utiliser des QR codes et faire apparaître en réalité augmentée.
Ah yes.
Dessus. Et ça serait interne à la BD, c'est-à-dire qu'on a les pages de BD et au sein de la BD, un peu comme on aurait dans Watchmen, toute proportion gardée, on va dire, il y a des pages dedans, en plus des pages de BD, ce qu'on aimerait faire, et dedans on peut faire apparaître, il y a d'autres choses dedans écrites, des documents, et apparaître les personnages en animé.
Ça se fait de plus en plus. Effectivement, ouais. la frontière avec la réalité augmentée devient de plus en plus intéressante.
Et ça s'y prêterait avec un thème.
Des storyboards, des choses comme ça, et effectivement, ouais, c'est. Mmh.
Ouais. Ouais, on y pense. Et le fait donc d'utiliser pareil des layers séparés dessus, ça permet aussi de faire des fois des petits mouvements un peu en 3D et tout ça.
Voilà, pour donner une sensation de profondeur. Ouais.
On y pense par la suite. Si par exemple il y a une version, je dis n'importe quoi, mais un peu audio et puis avec quelques visuels dessus qui passent, on pourrait retrouver les planches avec un peu de profondeur de champ, Daniel.
Voilà, tu vois par exemple là, pour m'entraîner un peu, j'ai commencé un plan sur de vue de la ville et je me suis amusé, j'ai fait un dirigeable en haut et je l'ai mis sur un calque séparé, donc ça veut dire qu'à la fin on peut faire un dirigeable publicitaire avec des pubs qui changent au fur et à mesure ou des trucs qui défilent. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut prévoir, qu'on peut.
Ah, c'est stylé, ouais.
Voilà, ça c'est.
C'est aussi ce qui a fait un choix, c'est qu'au début tu te posais la question, est-ce que je fais sur papier les crayonnés et les l'ancrage, ou est-ce qu'on passe, on fait. Enfin, tu fais tout direct à l'ordi. Finalement, ça a été tout à l'ordi pour ces raisons pratiques ensuite, quoi.
Donc, pas du tout de crayonné de départ ou
En fait, j'applique la technique classique, mais sur ordi, pour pouvoir séparer des calques et pour pouvoir. Voilà, parce que je sais après qu'il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de travailler directement sur ordi à partir d'un truc purement 2D. Je pense qu'on, nous, on va travailler, on va prévoir ça d'abord, d'avance. Voilà, on va essayer de faire des plans sur des grandes cases où il y a des plans bien séparés.
Ok. Voilà. Et c'est proche de ta technique de travail habituelle ou c'est au contraire
pour l'instant tout nouveau je fonctionne. Pour le projet ? Alors ça c'est tout nouveau sur le projet, mais pour l'instant en travail brut du graphisme, j'applique toujours la méthode classique crayonné, ancrage. Voilà, je travaille à partir du storyboard. Donc je crée mon fichier avec, je place les textes, je cale un peu mes points de vue et puis après je commence à faire un crayonné léger, souvent de couleur.
Okay.
Donc avec des traits bleus, traits rouges, voilà. Et puis à la fin, une fois que vraiment mon crayonné tient la route, que j'ai bien les expressions des personnages et tout, là je passe à l'encre.
Ok.
Voilà.
Et la colorisation, tradie aussi ou
la colorisation, moi j'en fais un peu, mais je prétendrai jamais être au niveau d'un vrai pro.
Ok.
Et
sous-traite du coup.
Bah là en fait j'ai un coloriste qui me suit sur notamment sur la Diagonale des Fous, okay. Là chez Ultra BD, qui a bossé sur L'Enfeust, qui est vraiment un très très bon et qui s'appelle Cyril Vincent. Qui est le plus gros bosseur que je connaisse.
Chez Delcourt, Soleil, voilà, de Lombard. Aussi chez
Delcourt, Soleil, il est partout. Et du coup, on l'a recruté sur le projet, donc ça promet.
Bah,
voilà.
Croisez les doigts.
Oui, merci. J'espère vraiment.
On a parlé boulot de la partie dessin, mais comment vous interagissez tous les deux? Il y a vraiment le scénario qui est posé et après tu te bases dessus ou tu peux dire bah tiens moi j'aurais plus vu ça comme ça
Alors comme toutes les coopérations qui fonctionnent bien et je sais pas, j'espère que tu vas aller dans mon sens, c'est qu'en fait en général je fais des propositions et j'attends le retour de Rémi parce que donc on travaille beaucoup par Discord, par Skype ou des choses comme ça et si je vois que j'ai une suggestion, une idée qui me vient et qui me paraît juste, je lui soumets, il la considère, il me dit oui ou non, et puis après on s'ajuste quoi.
Okay.
Moi ma méthode de travail, en fait je dessine aussi, alors beaucoup moins bien que Guillaume, mais dans mon métier à côté en réalisation, je fais beaucoup de storyboard en fait. Donc la BD, mon scénario n'est pas en forme de texte, il est vraiment en forme de BD déjà. Donc il y a déjà une première mise en page, ça lui permet de visualiser déjà l'ensemble, et après il rajoute des choses, il redynamise encore.
Parfois je vais mettre un point de vue un peu différent ou faire une proposition à Rémi sur un agencement des textes de manière à fluidifier la lecture ou des trucs comme ça quoi.
Et effectivement ouais, après c'est un petit ping-pong d'échange et tu rajoutes des petites choses des fois dans des tournures de phrases, des choses comme ça, des intentions, et puis ouais on en discute, on valide, pareil en graphisme, on dit tiens est-ce que c'est mieux ci, mieux ça, voilà.
Ça
avance.
Et là le délai annoncé pour la sortie, il y a un financement participatif si j'ai cru comprendre.
Pas encore.
Non, mais ça
va probablement arriver. Là on est en train de chercher un éditeur, on est en discussion, on est en train de voir. Donc soit si on est en autonome, on verra un financement participatif. Mais il se peut aussi qu'on passe donc par un éditeur. Mais il y a des éditeurs qui font aussi des financements participatifs.
Oui,
comme Comics Initiative, comme Camity et tout ça. Donc on est en train de voir justement étudier un peu tout ça.
Et à côté de ça, on m'a demandé une aide au CNL. Donc ça passe en commission en juin. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent du CNC pour le cinéma, mais pour le livre. Et donc si on a une aide de leur part, on est tenu aussi à un cahier des charges qui nous ne nous affecte pas d'un point de vue de création, parce qu'on on a vérifié, on rentre dedans.
Ouais.
Mais on aurait quand même un cahier des charges en termes de délai. Donc on serait sur du 6 mois, 1 an à temps plein.
Ouais.
Pour la production, pour la production du bouquin. Et là ça nous engagerait. Et oui du coup là on serait tenu pour 2024. Là pour l'instant honnêtement on vise 2024
début. Oui ça va être ça, ouais. Soit entre début 2024 ou mi-2024 après.
Ouais,
on est sur quelque chose là-dessus.
Ok, ça va bien vite hein.
Bah oui, ouais.
On espère.
En termes de pourcentage d'avancement, on serait sur quoi actuellement là?
Actuellement, on a fait quoi? On a fait 3 pages ancrées.
Il y a 3 pages ancrées, il y en a 2 en préparation. Encore,
oui,
là,
on a le storyboard qui est complet, donc ça c'est un gros morceau.
Tout le scénario est complet, ouais, tout le storyboard est complet.
Voilà.
Et les 3 pages avancées en dessin.
Et après, okay, ça peut aller assez vite dans la mesure où pour l'instant je divise mon temps entre les livres Nalbuck. Là, on vient de sortir un nouveau livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Aventure à Schnafon qui est arrivé à la fin du mois. La Donc j'ai aussi encore des livres chez Ultra BD à sortir. Donc là je viens de terminer, on est en plein bouclage de la première moitié du tome 3. En fait, il va sortir en deux carnets, en deux moitiés. Donc sur la Saint-Élion et voilà, donc ça a un peu ralenti la production, mais quand je commence à fond, c'est une page de crayonné par jour, un ancrage par jour,
c'est une démarche forcée.
Ouais, là quand on
est en trail BD,
voilà, quand on se met dedans, on se met dedans quoi.
Si c'était vraiment à temps plein, on va dire tout et la colorisation et tout, ce serait en 6 mois. Mais en vrai, ce sera pas le cas. Il y aura toujours des petites choses, mais voilà,
il y a toujours des commandes alimentaires, il y a toujours des j'ai aussi une mini-série sur Casus Belli qui s'appelle Donjon Service. Et ça, pareil, ça revient périodiquement. Il peut y avoir.
Trimestre.
Ouais, grosso modo. Ouais. Il doit y avoir aussi, une fois de temps en temps, il risque d'y avoir des livres pour le Donjon de Nalbuck qui vont arriver. Mais ça, c'est de l'illustration, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas la même façon de bosser. Ok.
Voilà.
Et quelques mots sur ton projet La Diagonale des Fous, qui est différent.
Oui, alors c'est très différent. C'est à l'initiative de Fabrice Siffré, qui est un coureur de trail. Il a fait 3 fois La Diagonale des Fous, 3 fois l'UTMB. Il a fait les Templiers, les machins. Il a couru partout. Et il a voulu monter, pouvoir communiquer sur sa passion, d'une manière un peu originale, parce qu'il y a déjà beaucoup de livres qui existent sur ma course, ma douleur, tout ça. Bon, voilà, j'ai fait par les grands champions de la discipline. Et il voulait quelque chose un peu plus familial. Donc il s'est dit, pourquoi pas la BD. Et il a fait donc une fois la Diagonale des Fous pour le chrono, une seconde fois pour les photos, une troisième fois pour compléter le dossier. Et il a fait, faut aimer souffrir.
Il faut documenter.
Ouais,
faut,
160 km pour le fun et pour prendre des photos. il a composé un storyboard et on s'est croisé sur un salon. Il m'a recruté comme ça. Et pour moi, c'était un grand défi parce que je dessinais que des barbares avec des muscles bourrins et des nains poilus qui puent. Donc, à l'époque, sur Nalbuck,
là, c'est des grands, tout maigres, musclés secs.
Ça m'a changé, tu vois. J'ai mis bien 3 mois avant de réussir à rentrer dans le graphisme et ça m'a demandé pas mal de concessions parce qu'au départ, je faisais des mecs mais avec des épaules de bourrins. Il a fallu vraiment changer ma perception de la physionomie et du dessin. Et petit à petit, là, ça s'affine de plus en plus. Et pour moi, c'était un défi. C'était une manière de ne pas stagner graphiquement et de pouvoir me confronter à autre chose. Alors, j'ai fait du dessin de décor, de montagne. Je me suis tapé tout le dossier photo, les animaux, les plans de la Réunion. Là, pour le tour du Mont Blanc, il fallait pas se déconner parce que les gens, ils savent très bien où elle est, l'aiguille du Midi. Hein. Si tu l'oublies sur la ligne de crête, t'es mal. Voilà, donc c'était un autre
exercice, ouais.
Ouais. Et là, du coup, c'est un nouvel exercice avec Schmurfrunner, parce que là encore, je dois me couler dans un graphisme différent du mien avec Peyo, me réapproprier une nouvelle manière de dessiner, une nouvelle morphologie, des nouveaux décors, ce que le futuriste j'avais jamais fait, donc nouvelle prise de risque.
Là, niveau musculature, c'est foutu, il n'y a plus rien.
Ah oui, non, là, il n'y a plus de barbares, là. Quoique, allez savoir. On va peut-être faire.
Peut-être arriver à avoir des infos à un moment.
Le schmeur culturiste ou je sais pas quoi. Voilà, donc encore un gros défi graphique à relever et ça me plaît parce que sinon on stagne. Quoi.
Puis on s'ennuie.
Bon, les gens n'ont pas pu voir mon haussement d'épaule, mais oui.
Romain. Moi, je trouve que c'est pas mal, on a bien fait le tour, effectivement. Ouais. Des grands écarts.
On peut suivre l'avancée du projet sur les réseaux, là. Je vois que vous avez du Facebook, du Twitter.
Ah, on est partout. On a même du TikTok, on est des dingues. Et du coup, on est très actifs, surtout. Alors maintenant, il y a le site internet. Depuis très peu de temps, alors allez-y. C'est super parce qu'il y a des résumés un peu de tout, il y a des liens un peu vers tout. Il y a des vidéos, d'ailleurs, on a fait une vidéo où on explique un peu tout le projet, tout ça. Donc il y a des infos dessus qu'on vous a pas dit pendant cette interview. Donc. Allez-y. Et il y a des liens donc dessus. Il y a aussi un agenda où on peut retrouver tous les festivals où on est présent. Bah, surtout Guillaume, du coup, qui est en dédicace dessus. Et moi, je vais essayer d'en faire de plus en plus. Voilà. Et voilà. Et on est aussi beaucoup sur Facebook, Instagram et tout ça. Surtout ceux-là. Donc allez-y, il y a des photos. Régulièrement, on alimente. et puis n'hésitez pas à nous poser des questions et tout. Et surtout que voilà, le crowdfunding n'est pas lancé, les préventes ou les ventes sont pas encore lancées. Mais si vous voulez, si les gens veulent savoir quand ce sera lancé, qu'ils viennent, on pourra les prévenir et lancer tout le truc.
Oui.
Parce que là, mine de rien, lors de ce festival, c'est notre épreuve du feu. On a, on a eu des super retours.
Alors déjà, je tiens à m'excuser tout de suite pour les gens qui pensaient que la BD était déjà sortie, qui ont cherché. Alors,
on a eu beaucoup de demandes.
Je suis désolé.
Tant mieux.
Voilà. On crée un peu de frustration, mais c'est comme ça. On a besoin de créer une communauté avant le lancement du projet pour pouvoir sécuriser un financement participatif s'il y a besoin et pouvoir aussi nous donner une assise de public et de lectorat qui permettent aussi de sécuriser un futur éditeur. Ouais. Et donc c'est très important. Voilà.
Ah, mais c'est un bon retour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ont vu les visuels, ont vu les flyers et cherchaient la BD dans la pile à côté. Ouais. Et ils étaient déçus de ne pas la trouver tout de suite. Quoi.
Les gens accrochent directement, c'est ça qui est rigolo. Quoi. Dès qu'ils voient la bannière ou des choses comme ça, tout de suite ça les fait marrer, le concept les fait marrer.
Voilà, et moi j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir aller en salon. La chance inouïe, c'est de pouvoir sortir de mon atelier et de rencontrer les gens et de confronter le projet au réel. Et en plus c'est très stimulant parce que n'étant pas chez moi je peux me concentrer à fond et du coup c'est en général sur les salons que je fais mes meilleurs concepts.
Ouais.
Oui. Donc là j'ai acheté un petit bloc de dessin chez le libraire chez qui voilà, j'ai commencé à dessiner et du coup les gens voient les concepts naître directement et ça a un impact très positif.
Donc voilà. Il y a des visuel original, Schmurfrunner, spécial Angers Geek Fest qui viennent d'être créés.
Alors, je vais pas susciter beaucoup de trop d'attentes, mais moi j'en ai vu. Hein. Venez-y maintenant, là tout de suite, parce que vraiment ça donne envie et moi j'attends. Je vais pas aller chercher la BD parce que je sais que non, mais je pense que je vais stalker très très fort.
Ah, on espère bien être stalké à fond.
Eh ben merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Un grand merci à Rémi Hoffman et Guillaume Albin de nous avoir octroyé cette interview lors de l'Angers Geek Fest 2023. Leur projet à base de Schtroumpf et de Blade Runner sera disponible en financement participatif. Je pense que j'en reparlerai ici, peut-être en remettant un petit coup de projo et puis d'interview. On a beaucoup débordé. On a notre cher Fabien qui va pouvoir nous parler du coup d'un manga. De quoi tu nous parles ce soir ? Ah, attends, je t'ai pas mis ton micro. Va être mieux comme ça.
Ouais, c'est mieux comme ça. Merci Seb. Bah, bonsoir à tous déjà. Alors ce soir, je vais vous parler d'un manga plutôt western. Alors il y en a pas énormément et donc là, on va partir sur un titre qui s'appelle Green Blood. Donc c'est édité chez Kiun, c'est en 5 tomes, c'est sorti en France en 2013, donc ça commence à dater un petit peu, malheureusement en arrêt de commercialisation, on espère toujours peut-être une petite réédition, il y a une grosse vague en ce moment, donc un auteur qui est pas mal édité en plus, donc on verra ça dans les mois à venir peut-être.
Ou chez votre bouquiniste en occasion.
Hein. Ouais, en occasion, sinon ça s'est pas encore trop envolé sur cette série-là. Je crois qu'on peut trouver autour de 50-60 euros les 5 tomes, ce qui commence déjà, commence à faire. Ouais. Et du coup, l'auteur, le mangaka, c'est Masasumi Kakizaki. Pas facile à dire. de quoi ça parle? Donc en fait, on se retrouve à Manhattan à la fin du 19e siècle, où la misère, la criminalité, la prostitution ravagent le quartier de Five Points, immense ghetto où échouent tous les laissés pour compte du rêve américain. La pègre, qui a corrompu les autorités, y fait régner sa loi. Au sein de la marée d'immigrants qui transitent par New York jour après jour, le jeune Luke Burns s'efforce de rester honnête et joue les dockers pour survivre. Il sait, comme tout le monde, que le clan mafieux le plus dangereux de la ville, les Grave Diggers, s'appuie sur des assassins impitoyables pour asseoir son autorité. Mais ce qu'il ignore, c'est que le plus célèbre et le plus redoutable d'entre eux, le Grim Reaper, n'est autre que son frère aîné Brad. Donc là, on va tout de suite être dans l'ambiance. C'est hyper sombre, c'est violent, cruel. Vraiment, on est vraiment plongé dans cette fin du 19e siècle aux États-Unis où on a guerre de gang, aucune pitié pour les faibles. Et voilà, vraiment tout de suite, on est plongé dedans dès les premières planches. Donc âme sensible s'abstenir, je dirais quand même, parce qu'on est quand même tout de suite sur des choses assez violentes.
Au-dessus de 13 ou 16?
Moi je dirais quand même entre 14 et 16, mais pas avant, parce que là c'est quand même je dirais 15-16 ans.
OK.
Histoire de prendre une petite marge un peu, mais
c'est les parents qui jugeront.
Ouais, c'est ça. Il vaut mieux que les parents regardent un peu pour voir s'ils pensent que leurs enfants sont capables, parce que ça dépend des enfants aussi. Mais c'est en plus le trait de l'auteur, j'en parlerai, est très 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 bon, et du coup ça donne tout de suite des scènes assez incroyables. Du coup, en fait, cette série, elle peut se décomposer un peu en deux parties. On va avoir une première partie qui va nous mettre dans une atmosphère plutôt à la Gang of New York. On va se retrouver vraiment comme dans l'univers de Scorsese. Guerre de gang, ultra-violente, sanglante, lutte de territoire, policiers corrompus, avec vraiment cette atmosphère sombre et sale, dans la boue, dans le sang. Et à côté de ça, on va avoir une deuxième partie qui va être différente quand les deux frères vont quitter la ville. Je ne vais pas en dire plus pour pas trop spoiler, mais on va se retrouver dans une ambiance beaucoup plus western. Donc on va rester sur des choses bien violentes aussi, hein, ça change pas, mais plutôt autour des grands clichés du western. Histoire autour de la construction des voies de chemin de fer, on va voir les Indiens aussi qui arrivent un peu dans tout ça. Donc on va faire un petit tour des États-Unis comme ça avec eux. Personnellement, j'ai préféré une petite préférence pour la première partie. Je l'ai trouvé encore mieux que la seconde. Mais j'ai passé un très bon moment quand même à lire la deuxième. Donc là, je vous ai parlé que de l'histoire, mais ce qui est impressionnant sur ce manga, c'est le trait de l'auteur. Là, le dessin, il est magnifique. Moi, j'adore, c'est un trait réaliste qui fourmille de détails. On a des décors qui sont fous. Ça nous plonge vraiment dans cet univers-là. Ça retranscrit vraiment bien l'ambiance de l'époque. Et pareil, les personnages, on en a avec des mines patibulaires qui sont bien faits. On se retrouve vraiment avec les gueules cassées et tout ça. C'est vraiment cool, très sombre. Et du coup, si vous avez l'occasion, allez essayer de voir les planches. Donc, c'est Kakizaki, et vous verrez, quelles que soient les planches que vous trouverez en fonction de son manga, parce qu'il en a fait plusieurs, il a un trait qui est vraiment superbe. Donc, en fait, comme je disais, hein, attention. Donc, c'est un anime très violent. Donc, à mon avis, pas 15-16 ans, c'est pas mal. Et après, l'auteur, il est aussi plus connu que Greenblood pour un autre titre qui s'appelle Rainbow, qui est une série, sa série phare en fait, c'est sa première qui a été édité en France. Ça raconte 7 adolescents qui sont enfermés dans une maison de correction et où ils vont vivre un enfer. Vraiment, c'est une maison de correction pas cool du tout, et on va suivre en fait ces adolescents là. Moi, c'est une des séries que j'ai pas encore pu lire de l'auteur et que j'espère pouvoir me procurer. En plus, qui a été réédité là il y a pas longtemps dans une très belle édition, donc trouvable par tout le monde et a priori qui est vraiment très 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 bien. Ensuite, il y a deux autres séries. Celles-ci, je les ai, donc j'ai pu les lire. Il y a le Shonen Bestiarius. C'est une série qui se passe à l'époque romaine où on va suivre en fait un gladiateur, mais tout ça mêlé avec du fantastique. On va retrouver des monstres comme des wyvernes et des minotaures, et toujours avec un trait ultra détaillé, des combats magnifiques. Et, on est vraiment bien plongé dans l'ambiance, ça marche vraiment très très bien. Et sinon, un petit one-shot horrifique, bien sympathique, on est plongé dans une caverne, où là, vraiment, le trait de l'auteur est sublimé, vraiment avec les noirs et ses petits traits. Donc franchement, un auteur à tester. N'hésitez pas à venir voir au magasin, je les ai, donc si vous voulez feuilleter les bouquins pour vous rendre compte du dessin, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas toi, si Seb, tu connais un petit peu, si t'as déjà eu l'occasion de voir, mais...
Ah, moi je connais Hideout parce que du coup je l'ai lu, je l'ai à la maison, ça fait partie des mangas qui sont hors de portée de ma fille pour l'instant, pour des raisons tout à fait évidentes, et son trait est dingue, mais je le trouve encore plus dingue du coup sur Greenblood parce que il rajoute de la matière en fait. Je ne sais pas si c'est des trames qu'il utilise mais il y a des moments, il aurait presque pu faire du comics en fait. Il y a des splash pages qui sont gigantesques. Il y a de la matière. Il y a plein de trucs en fait qui sont.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Bien, ouais. Moi, je préfère aussi dans Greenblood tout simplement parce qu'il y a du décor et il est ultra fort aussi sur les décors et ça ramène de l'ambiance. Que dans la caverne finalement. Il y a très peu de décors, c'est tout le temps très sombre. On a moins de détails. Mais là, les ruelles, ça fait vraiment ambiance saloon et tout. C'est vraiment hyper cool.
Hideout, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais de mémoire, il y a tout un passage en extérieur au départ avec une forêt qui est plutôt dense aussi.
Ouais, mais on est vite plongé quand même. C'est pareil, moi, ça fait longtemps. C'est un de mes premiers que j'avais lu de lui. Mais j'ai quand même plus le souvenir de cette grotte. Et alors moi je suis moins horrifique aussi, donc j'ai moins accroché sur Hideout, alors que j'ai des clients qui adorent Hideout, qui c'est vraiment par lui, que par ce manga-là, qui sont rentrés dans cet auteur-là. Mais pour le coup, j'ai moins de souvenirs de la partie dans la forêt.
Enfin, je leur lis du coup.
Ouais, ben moi aussi. Moi aussi.
Eh ben écoute, c'est top. Voilà. En plus, petite série, 5 tomes.
C'est ça.
C'est pas le truc cool qui plombe les étagères.
Non, c'est ça. Et sincèrement, ça fait des beaux volumes très sympas.
Eh ben merci Fabien. Richard, tu voulais intervenir sur... tu étais en train de les feuilleter tout à l'heure.
Ouais, je feuilletais. Et non, pas grand-chose à dire. Effectivement, je sais pas, ça, tu t'as dit le deuxième, c'est Rainbow.
Rainbow, c'est la première qu'il avait eue. Ouais.
Et c'est quel style ?
Alors, on va être, c'est les adolescents qui sont dans la maison de correction.
Donc d'accord, on n'est
pas du tout dans le passé, plutôt époque contemporaine.
Et on est toujours sur de la tension, j'imagine ?
Ah, c'est très sombre.
Okay,
ah
oui,
très violent. Sombre, ouais, ouais, en fait. Ouais, lui, c'est toujours okay. Sombre. Sur le moins sombre, peut-être que ça va être Bestiarius.
D'accord.
Déjà, c'est un shonen.
Oui.
Et encore que, attention, c'est un shonen violent. Il y a des, voilà, faut faire attention, mine de rien quand même. Mais peut-être moins sombre, avec moins de fond, on va dire, de violence, même si bah ouais, ça reste Gladiateur avec beaucoup de combats quand même.
Des okay. Têtes qui volent et tout.
Ouais, mais clairement, on est c'est sombre et c'est ça. Des fois, c'est un petit peu horrifique aussi. Je vois certains visages de personnages qui sont.
Ouais, qui ouais, c'est sont... il a ce côté-là. Il arrive à faire ressortir vraiment des mines patibulaires. Ça donne vraiment cette impression de.
Il est bien géré le côté western du coup.
Ouais, ouais, clairement, ouais.
Luc.
Bah moi je l'ai feuilleté aussi. Moi je ce que j'aime bien, j'ai toujours dit moi ce que j'aime bien dans la BD, alors manga y compris, c'est les performances graphiques. Et là on est face à réellement des performances graphiques, enfin les visages, le détail, en fait tu l'as très bien décrit hein. Les ambiances de rue, c'est vraiment voilà, moi je trouve que c'est ce qui m'en qui me passionne dans la BD, c'est la capacité du dessinateur à exploser les pages, à les voilà. Et on est vraiment là-dedans. Moi, je suis pas très manga, mais vraiment c'est impressionnant. Ouais.
Et vous venez de l'entendre. Dis donc, tu te détends pas. Vous venez d'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Promis, je vais essayer de mettre un petit peu plus, parce que c'est un truc qui me saoule un petit peu, mais c'est quand même bien de discuter avec les gens. Je tiens à remercier encore une fois Richard, Fabien et Luc d'avoir été présents à cette émission. J'espère que ça vous a plu.
Très cool.
Ah, moi, je viens juste en visiteur à chaque fois. Mais en vrai, je participe. J'ai envie de dire, je suis un peu le client test presque. En fait, je viens, je découvre ce que vous rapportez et c'est cool.
Eh ben, écoute, tu es toujours le bienvenu. Et si, comme Richard, vous voulez venir assister à l'émission, n'hésitez pas. Les portes du studio sont ouvertes. Luc, tu nous parles de quoi la prochaine fois ?
Ah, la prochaine fois, je parle d'un pavé qui s'appelle Trou de mémoire, qui est publié dans une petite maison qui s'appelle Édition des Quatre Mondes. Et voilà, on est dans un polar avec à nouveau un graphisme un petit peu. Enfin, on change d'univers. Voilà, je parle de ça et j'en dis pas plus.
Eh ben, n'en dis pas plus. On se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je vois de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision.